10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Le monde ne suffit pas.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette rentrée Transistor. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission, Le Monde ne suffit pas, présentée par Antoine
et Thibault. Le principe est très simple, il s'agit d'évoquer des pays qui se trouvent ou se sont trouvés au centre de l'actualité pour revenir sur des détails qui nous échappent parfois et sur lesquels les grands médias n'ont pas toujours le temps de s'apesantir. Dans chaque numéro, nous vous proposerons une revue de presse avec quelques morceaux choisis de l'actualité des quatre coins du monde, puis nous ouvrirons un grand dossier en compagnie d'un spécialiste.
Aujourd'hui, cap sur la Roumanie, avec Emmanuel Boulineau, géographe à l'École normale supérieure de Lyon. Mais avant, nous passons à la revue de presse.
Et pour ouvrir cette revue de presse, Antoine, on commence avec les élections qui ont eu lieu dimanche au Brésil.
En effet, Thibault, dimanche, le Brésil a choisi, ou en tout cas est en train de choisir, son futur dirigeant. Au moment de l'enregistrement de l'émission, nous ne connaissons pas l'issue du scrutin, mais on peut imaginer qu'elle sera en faveur de Dilma Rousseff, la dauphine de Lula. Tous les sondages la donnaient gagnante au premier tour. Pourquoi ? Parce qu'elle bénéficie de l'immense popularité de Lula, près de 80% d'opinions favorables, qui part du pouvoir plus populaire encore qu'au moment de son accession, ce qui est un phénomène rare en politique. Mais les faits sont là. Durant les deux mandats de ce leader de la gauche brésilienne, ce ne sont pas moins de 32 millions de personnes qui, ayant vu leur pouvoir d'achat augmenter, sont entrées dans la classe moyenne, désormais l'enjeu électoral principal. L'économie brésilienne s'est développée, et sur la scène internationale, le Brésil est devenu un partenaire incontournable parmi les pays émergents, au point que c'est l'administration Lula qui a voulu jouer un rôle d'intermédiaire entre l'Iran et les puissances occidentales. Cependant, le chantier politique de Lula est bien loin d'être terminé. Plus de 25% de la population est encore analphabète, et le problème de la pauvreté est loin, très loin d'être réglé dans un Brésil où s'enrichissent de plus en plus les plus fortunés. Enfin, le problème agraire est toujours d'actualité, faute d'une vraie réforme. La gestion de Lula est d'ailleurs vivement critiquée par le journal d'opposition La Berra, qui reproche de disséminer l'argent du contribuable. Alors, quelle marge de manœuvre pour Dilma Rousseff ? Elle a été ou sera très facilement élue, mais l'exercice du pouvoir sera-t-il aussi facile ? Rien n'est moins sûr. Car Lula a toutes les chances de peser encore considérablement dans la vie politique brésilienne, et Dilma Rousseff, bien qu'énergique et déterminée, risque de se retrouver confronté au problème de l'usure du pouvoir, presque, j'ai envie de dire, à la place de Lula. Comme si finalement, le vrai vainqueur des élections de dimanche, c'était Lula.
Et on va changer de continent et partir pour l'Afrique avec les événements récents liés à l'ACMI, les combattants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui donnent du fil à retordre au pays du Sahel maghrébin. Libération a consacré vendredi dernier une double page à cette question, rappelant tout d'abord l'enlèvement au Niger les 15 et 16 septembre dernier de 5 employés français d'Areva. Enlèvement revendiqué quelques jours après par l'ACMI, photos et enregistrements à l'appui. Mais le problème n'est pas uniquement nigérien, puisque les otages seraient détenus au Mali. Et c'est bien là que semble résider tout le problème. L'ACMI est très mobile, dans un espace particulier, le Sahel, que les États contrôlent difficilement. C'est ce que confirme Amadou Toumani Touré, président du Mali, dans un entretien à Libération pour justifier une politique un peu molle, selon les propos du journaliste, en matière de lutte antiterroriste. Je cite « Nous sommes face à de petits groupes disséminés. Vous pouvez passer des mois à leur courir derrière avec un nombre très important de victimes. Je ne vais pas engager l'armée malienne pour qu'en Occident, on dise que je me bats contre le terrorisme alors que ça ne sert à rien. » Autre pays touché, la Mauritanie, subit des attaques djihadistes depuis 2005. La réaction de ce pays, voisin du Mali, est fort différente. Courrier International rapporte dans son numéro de mercredi dernier un article du journal Le Calam intitulé « Une option militaire des plus risquées ». Le journaliste rappelle le ton combatif du président Ould Abdelaziz qui dénonce des fous d'Allah qu'on ne laissera plus faire. Le résultat est la mise en place d'une lutte militaire acharnée pour débusquer les membres de l'ACMI là où ils se cachent, avec des traductions surprenantes. L'armée mauritanienne a en effet lancé une offensive au Mali le lendemain même de l'enlèvement des otages français. Et le journaliste écrit « la stratégie mauritanienne de mouvement hors des limites du territoire national apparaît bien aventureuse et de mauvais aloi. Ne devrions-nous pas multiplier nos efforts pour assurer une meilleure surveillance de notre espace ? Il rappelle au passage la position ambiguë de l'Algérie, autre voisin sahélien important qui ne prête jamais main forte à ses voisins, mais qui déclare qu'Al-Qaïda est un ennemi commun. Alors dans ce contexte, quelles sont les solutions ? Eh bien le président Touré indique clairement que, je cite, « le problème c'est le déficit de coopération régionale » et il ajoute « les actions isolées sont vouées à rester ponctuelles ». Le président dit appeler à des actions communes depuis septembre 2006, mais sans succès, et il juge que la réunion des états-majors algériens, mauritaniens, maliens et nigériens qui s'est tenue dimanche 26 septembre pour donner une solution au problème n'est qu'un volet d'un plan plus global qui devrait inclure des mesures plus importantes pour la paix et pour le développement du Sahel. Sans doute a-t-il raison, mais face à l'investissement politique et économique qu'implique un tel plan, gageons que l'ACMI gardera sans doute la main sur cette région pendant quelque temps, pendant trop longtemps.
Et pour terminer, passons au regard critique d'une étudiante étrangère sur son propre pays. Cette semaine, nous recevons Laura Rachal, masterante du côté de Mono. Bonjour Laura, ton pays donc c'est les États-Unis et tu veux évoquer les dernières lois américaines concernant l'immigration en insistant sur un élément fondamental qui définit la nation américaine.
Les États-Unis, on est un pays d'étrangers, mais quand même il y a des Américaines qui sont contre l'immigration, surtout l'immigration illégale du Mexique. Par exemple, en juillet, il y avait une loi qui est passée en Arizona. Loi a dit si vous êtes arrêté par un policier, il a le droit de te demander des papiers. Et si vous n'avez pas ces papiers, il peut te laisser à la frontière de Mexique. 51% des Américains sont contents d'avoir une loi comme ça dans le propre État. Je voudrais vraiment faire une comparaison avec la France et l'expulsion des Roms. Si vous voulez, mais la même fois à la base des États-Unis, comme j'ai déjà dit, c'est un pays des étrangers et pour moi, c'est injuste de demander aux gens qui semblent pas d'être américains qu'ils les disent qu'il faut partir des États-Unis.
Voilà pour la revue de presse. Avant d'ouvrir le dossier de la semaine, place à la musique.
Alors le groupe de la semaine, c'est un groupe de rock déjà vu, formé en octobre 2004 à Lyon. Leur deuxième album, Roulette Russe, contient un titre Alison Grey que nous écoutons maintenant. A tout de suite pour le dossier de la semaine.
MTV, qu'en as-tu fait ? Serait-on tenté de te dire à propos d'Alison Grey ? Salut.
Et maintenant, place à la Roumanie pour le dossier de la semaine.
3, 2, 1, 0.
Le monde ne suffit pas. À l'aéroport de Timișoara, ville située à l'ouest de la Roumanie et réputée pour sa tranquillité, des vols inhabituels changent l'ambiance. C'est un véritable déferlement de Roms, la minorité la plus discriminée en Roumanie. Depuis le début de l'année, 5000 d'entre eux sont rentrés de France dans leur pays d'origine. Pour décourager ces nomades de s'installer en France, les autorités françaises leur proposent un retour volontaire en Roumanie, mais les Roms ne sont pas convaincus que les 320 euros d'argent de poche soient le meilleur des plans.
Fermer la porte aux Roms, voilà ce que semble être l'un des objectifs de la politique française en matière d'immigration, et ce depuis quelques mois, comme l'illustre le reportage de France 24, dont nous venons d'entendre un extrait. Entre le terme Roms et le nom de l'un des pays dont provient cette communauté, l'amalgame est facile. Pourtant, les Roms ne sont évidemment pas la Roumanie, et ce pays reste peu évoqué dans les médias, malgré la déferlante de sujets et d'articles récemment publiés sur le sujet.
On peut d'ores et déjà en dire quelques mots. Vous savez sans doute que ce pays est à l'est de l'Europe, très à l'est même. C'est un pays frontalier de l'Union européenne qui l'a rejointe en 2007. Il est ainsi au contact de la Moldavie, de l'Ukraine et de la Serbie. Les autres pays frontaliers, la Hongrie, la Bulgarie, sont membres de l'Union. À l'intérieur des frontières, maintenant, la ville généralement connue des Français dans ce pays de 239 000 km² est la capitale, Bucarest, à ne pas confondre avec Budapest, qui regroupe quelques 2 millions d'habitants, soit un peu moins de 10% de la population totale. Bucarest est aussi capitale de la Valachie, l'une des trois régions historiques de la Roumanie avec la Moldavie et la Transylvanie.
Alors pour découvrir la Roumanie et notamment les liens qui l'unissent ou l'ont unie à la France et à l'Europe, mais aussi pour revenir en détail sur la question des Roms, nous avons convié au micro de Transistor une spécialiste de l'Europe et de l'Europe de l'Est, géographe maître de conférence à l'ENS de Lyon. Bonjour Emmanuel Boulino.
Bonjour à tous les deux.
Et merci beaucoup d'être avec nous dans Le Monde ne suffit pas pour cette première. Alors avec vous, nous allons d'abord revenir sur la question qui a fait l'actualité de ces dernières semaines, celle des Roms. Les articles sur ce sujet ont été nombreux et ils ont utilisé ou retranscrit des expressions très diverses. Le reportage qu'on vient d'écouter évoque la minorité Rom. On a parlé des jeunes de la communauté Rom, du peuple Rom. Alors quel est le terme le plus approprié ? Communauté, peuple, minorité, ethnie ?
Alors le terme le plus neutre qui est employé en général, c'est minorité ethnique, en accolant les deux, et surtout pour les pays d'Europe centrale et orientale. Le problème, c'est qu'en disant ça, on cible pas vraiment la question, puisque d'abord, c'est quoi l'ethnicité ? Qu'est-ce que c'est qu'une ethnie ? Et là, les Roms ne se présentent pas comme une ethnie, ce sont des populations Roms, des communautés Roms, qui ont des langues, des religions et des modes de vie complètement différents, à l'intérieur même d'un même pays, qui peut les abriter en Europe centrale et orientale. Cette question de l'ethnicité, on peut pas non plus l'avoir via les recensements, parce que c'est des populations qu'on a du mal à recenser. Même pour les chiffrer, il y a un problème de chiffres. Ça passe du simple au double. Que ce soit en Roumanie ou en Bulgarie, en Roumanie, on est à peu près, on les estime à 500 000 selon le recensement, et près du double si on est sociologue ou qu'on les comptabilise comme une ONG. Et même chose en Bulgarie, où on passe du simple au double. Donc déjà, on a du mal à les comptabiliser. Et puis la notion de minorité, elle renvoie bien souvent au précaré des États qui veulent effectivement savoir qui est la majorité, qui est la minorité et où se trouve cette minorité. Or, ces populations roms, elles sont, je dirais, plutôt mobiles que nomades. On a entendu le mot nomade dans le reportage. C'est des populations mobiles à l'intérieur du pays où elles se situent. Et maintenant que ces pays sont dans l'Union, eh bien, elles sont mobiles dans l'Union européenne.
Donc il faut concevoir en quelque sorte l'Union européenne comme un grand ensemble dans lequel les Roms ont le droit...
En tant que citoyens européens, ils ont le droit de circuler. Ils utilisent cette liberté de circuler en Europe.
Justement, en voyant la diversité des lieux de vie des Roms, la difficulté pour les compter, est-ce que l'association Roms-Roumanie est pertinente ?
Alors sachant que on compte, alors si on raisonne encore en termes de chiffres, il y aurait 12 millions de Roms dans le monde, 7 à 9 millions en Europe, et la Roumanie serait le premier pays dans lequel vivent les Roms avec 2 400 000 environ, avec les réserves que vous venez d'indiquer.
Donc là, effectivement, le problème du comptage sur ces de ces populations. Évidemment, Rome, Roumanie, l'amalgame est facile puisque la racine apparaît commune avec Rome. Et en fait, ça n'a rien à voir. Donc bon, après l'histoire du peuple Rome les fait revenir, leur donne leur berceau en Asie et des populations qui ont été mobiles. Donc les Roms sont une population qui vit en Roumanie, mais il faut pas confondre effectivement Roms et Roumains. Alors ces Roms ont la citoyenneté roumaine. Ils sont de nationalité au sens de nationalité ethnique, on va dire. Ils peuvent se déclarer Roms dans les recensements, mais pas toujours. Des fois, ils vont se déclarer turcs ou roumains.
Donc, c'est une question en fait, de référence identitaire à l'intérieur même des communautés roms qui varie énormément.
Oui, il n'y a pas une identité rom. Elle est plurielle, elle n'est pas facile à cerner, mais il ne faut pas non plus faire des rapprochements faciles.
Alors comment expliquer, à l'inverse, que malgré cette diversité, on ait toute une série de lieux communs, de stéréotypes sur les roms, qui soient les mêmes, quels que soient les pays qu'on considère, et qui amène à une discrimination, en tout cas une stigmatisation d'une communauté vue globalement.
Alors effectivement, pour reprendre le titre d'un ouvrage, ils sont visibles mais ils sont peu nombreux. C'est un ouvrage de Dan Adiminescu qui portait sur la migration roumaine en France. Et on peut dire la même chose des Roms, c'est-à-dire qu'ils sont effectivement visibles parce que ce sont des populations qui ont, je dirais malheureusement, ce point commun d'être dans les sociétés européennes des populations pauvres. Pour sortir de cette pauvreté, ils ont des pratiques. Ils n'hésitent pas, par exemple, à mendier. Ils vendent des journaux dans la rue. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils sont visibles par la société. Voilà. Mais tout compte fait, ils sont assez peu nombreux en nombre.
Vous parlez de pauvreté, de mendicité. Donc, on a le sentiment que le peuple rom semble relativement mal intégré, que ce soit en Roumanie ou dans d'autres pays. Juste quelques faits significatifs. En août, Amnesty International a lancé un appel parce que la municipalité de Miecurea-Ciuc, désolé pour la prononciation, fait vivre depuis plus de 6 ans une centaine de Roms près d'une station d'épuration. Il y a d'autres éléments importants, une déclaration de Traian Băsescu, le président roumain, qui indique que sur les 1,5 million de Roms vivant en Roumanie, 1 million sont intégrés, 500 000 ne le sont pas. Et ensuite, on voit qu'en Roumanie, il existe un secrétaire d'État chargé de l'intégration des Roms, Valentin Mocanu. Donc dans ce contexte, quel est le statut des Roms en Roumanie, surtout par rapport à la situation en France? Est-ce qu'il y a une volonté et une possibilité d'intégrer les Roms en Roumanie?
Alors la question, effectivement, la Roumanie, en faisant le choix d'avoir un secrétaire d'État ou un pseudo-ministre à la question Rome, aurait tendance effectivement à faire sortir un petit peu cette communauté du reste de la société et vouloir promouvoir ce qu'on appellerait des politiques de discrimination positive. Et ça, c'est des choix des États, à chaque État, de faire la politique. Donc les Roumains ont fait ce choix-là, c'est pas le choix des Bulgares. Ils veulent pas dissocier cette population Rome à un titre ethnique par une discrimination positive. Ce qui n'empêche pas que le cas des Roms en Bulgarie est identique, marqué par la pauvreté et de la relégation sociale. Donc après, la question, j'aime pas le terme de question rome, mais les difficultés des communautés roms dans ces pays-là, c'est effectivement une intégration sociale parce que ce sont des populations pauvres. Elles sont aux marges de la société. Donc le problème se pose aussi l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, l'accès au travail aussi. Et c'est par des politiques dans ces domaines-là qu'on pourrait aussi concevoir d'intégrer davantage les sociétés roms dans leur pays d'origine. Après, la question s'est posée aussi quand avec cet été en France, ces populations roms qu'on a dit on peut pas les intégrer. Il n'y a pas une question d'intégration des populations roms pour la France. Les populations roms en France, elles sont mobiles. Elles font ce qu'on appelle de la circulation migratoire. Elles ne s'installent pas en France. Elles viennent dans un campement où elles squattent quelque part, elles ramassent un pécule et puis des fois elles reviennent au pays. Donc voilà, l'intégration dans leur pays d'origine ou dans les pays dans lesquels elles sont mobiles, elle se pose différemment.
Cette circulation migratoire, elle suit un rythme d'une période qui peut varier ou on a une... Il y a une période type, c'est plusieurs années, c'est quelques mois.
Alors là, on a assez peu d'études, où on a des études très localisées. Il y a eu des études, par exemple, sur les campements roms à Lyon. C'est extrêmement variable. C'est vraiment au gré des opportunités. C'est la migration d'une famille rome, elle se fait par des liens d'interconnaissance, un membre de la famille qui est parti, et donc le réseau se tisse peu à peu. Elle peut se faire aussi à des migrations saisonnières. Par exemple, on sait que beaucoup de Roms vont travailler en Grèce pendant la saison agricole. Donc voilà, c'est extrêmement varié. Et là, il n'y a pas de généralité sur la saisonnalité, le temps de la migration, etc.
Vous avez évoqué l'extrême précarité dans laquelle certains Roms se trouvent. Or, on a aussi vu que les Roms sont présents en Europe depuis très longtemps. Alors, est-ce que l'histoire récente a renforcé les conditions de la pauvreté ou est-ce que ça a toujours été le cas ?
Alors, effectivement, l'histoire récente a un rôle à jouer pour expliquer cette paupérisation des populations Roms. Il faut bien savoir que dans ces États d'Europe centrale, qui étaient autrefois socialistes, avant 1989, pour la Roumanie comme pour la Bulgarie, il y avait eu des politiques d'insertion sociale, alors plus ou moins musclées. En Bulgarie, il y avait eu carrément la bulgarisation des noms, donc c'était assez violent. En Roumanie, le choix était plutôt de travailler sur l'amalgame des populations roms, notamment dans ces grands habitats collectifs qui se construisaient à l'époque socialiste. Les Roms étaient aussi des journaliers dans l'agriculture. Ils avaient, on va dire, aussi effectivement des emplois, mais dans des catégories assez basses, hein, socialement. Et puis arrive la rupture de 1989, et au début de la période post-socialiste, tous ces pays ont été marqués par des crises, et on sait très bien qu'en période de crise, ce sont les populations les plus fragiles, souvent les plus pauvres, hein, qui vont se retrouver en premier en perte d'emploi, en perte d'habitat et en perte de repères dans une société. Donc voilà, ça c'est pour aller vite, mais il faut voir aussi que les Roms, ils saisissent aussi cette construction européenne pour circuler en Europe. Hein, je le disais, ils ont le droit, ils ont la liberté de circuler parce qu'ils sont citoyens roumains, slovaques, hongrois ou bulgares. Par contre, pour la Bulgarie, quand ils sont bulgares ou roumains, c'est pour ça que c'est ces deux populations-là qu'on a plutôt cernées cet été, ils n'ont pour l'instant pas le droit de travailler. Ce qui les cantonne aussi dans ces petits boulots, voilà, ou réduits à la mendicité.
Vous vous rappelez que c'est un peuple ancien en Europe, etc. Et pourquoi est-ce que constamment, depuis très longtemps, c'est un peuple qui semble si mal intégré ? Pourquoi ça ne change pas ?
Alors, faut se méfier des déterminismes historiques et du déterminisme culturel qui voudrait aussi qu'il y ait un mode de vie des Roms et que ce serait une population inintégrable. Il faut vraiment penser, effectivement, ces populations Roms dans la société qui les englobe. Ils sont une population pauvre et extrêmement vulnérable. Maintenant, pour parler un peu, voilà, on parle de vulnérabilité. Alors, c'est aussi un peut-être adoucir la question, hein, je n'en doute pas. Mais voilà, je voudrais pas de fatalisme, pas, voilà, sur des Roms qui deviennent visibles parce qu'ils circulent, hein, qui sont assez peu nombreux et qui sont en demande d'intégration dans les sociétés. Il y a beaucoup d'associations roms qui se forment, des partis politiques roms, des élus roms dans certains pays. Les choses vont changer, mais on peut dire doucement.
Alors, vous parliez de la mobilité des Roms, donc qui a aussi amené à la présence des Roms en France. Et on voudrait s'intéresser un petit peu plus en détail à ces relations franco-roumaines, puisqu'elles se sont surtout manifestées sur le mode du conflit ces dernières semaines, puisque depuis juillet, 964 Roms ont été renvoyés chez eux, ce qui porte à 8313 le nombre de Roumains et de Bulgares issus de cette communauté, encore un terme, qu'on était reconduits depuis le début de l'année, selon le ministère de l'Immigration. En Roumanie, la tension monte suite à ces expulsions côté français, puisque des manifestations devant l'ambassade de France sont apparues début septembre à Bucarest. Et pourtant, Antoine, il faut rappeler que ces relations franco-roumaines sont traditionnellement bonnes.
Oui, traditionnellement et culturellement d'abord, du fait que le roumain est une langue latine, il y a une tradition parmi les intellectuels roumains de francophilie, de pratique de la langue française. Et au XIXe siècle, la France est un acteur important pour l'indépendance des principautés roumaines. Et donc la France devient une sorte de modèle aussi qui inspirera beaucoup le système administratif et politique à partir de ces événements. Et au XXe siècle, il y a un rapprochement qui s'est instauré après la guerre, au point que à partir de 1989, la France est aussi l'ouvrier principal du rapprochement européen de la Roumanie. Et économiquement, c'est le troisième importateur et exportateur en Roumanie. Au vu de ces éléments, est-ce que les liens franco-roumains sont vraiment privilégiés ?
Oui, on peut dire ça. Il y a quand même une grande amitié franco-roumaine, une francophilie affichée en Roumanie. Il ne faut pas oublier, par exemple, Bucarest s'appelait le Petit Paris au XIXe siècle. Il y a des échanges culturels, intellectuels et effectivement une forte proximité diplomatique. Donc, Je dirais que les événements de cet été sont effectivement une tension. J'irai pas jusqu'à dire, et personne n'a parlé de crise diplomatique hein, entre la France et la Roumanie. La France a soutenu la Roumanie dans ses processus d'intégration à l'Union européenne. Je ne pense pas que ça devrait énormément se modifier.
Est-ce qu'on peut dire que le traitement de la question de l'intégration des Roms est traité de façon similaire avec les questions de rejet et de volonté d'intégration en France et en Roumanie ?
J'ai pas tout à fait bien compris le sens de votre question. Donc l'idée, c'est que je le disais tout à l'heure, l'intégration en France, est-ce qu'ils cherchent vraiment à s'intégrer ? Je me pose la question. Ils viennent travailler, c'est
d'accord.
Tout. Comme n'importe quel migrant, mobilité circulatoire, ils veulent travailler. Après, effectivement, ils savent aussi que la France peut leur octroyer, pour leurs enfants par exemple, un meilleur accès à la santé, un meilleur accès à l'éducation. Hein, on a vu plein de cas d'enfants roms qui étaient scolarisés et on a vu les maîtres d'école, les parents d'élèves se mobiliser pour que ces enfants roms puissent rester à l'école. Voilà. Donc, alors qu'effectivement, dans les pays, en Roumanie par exemple, il y a davantage de difficultés à l'accès à l'éducation, notamment parce que c'est un service qu'il faut payer dorénavant.
Au vu des relations qui sont quand même plutôt bonnes finalement entre la France et la Roumanie, aussi des liens entre l'Europe de l'Ouest et la Roumanie, est-ce que ces bonnes relations diplomatiques peuvent conférer à la Roumanie un rôle moteur en Europe de l'Est ?
On peut pas parler, il y aura pas de moteur franco-roumain dans l'Union européenne. En revanche, faut pas oublier que la Roumanie, qui est entrée en 2007, c'est un grand pays de l'Union européenne, à la fois en superficie et en poids de population. Hein, c'est 22 millions d'habitants. C'est le septième pays au rang du poids démographique. Donc c'est comme la Pologne et la Roumanie comme la Pologne joue cette carte-là pour pouvoir peser sur les décisions européennes. Après, est-ce que cette Roumanie peut devenir, un leader, pourquoi pas, parmi les pays d'Europe centrale et orientale ? Ça va se jouer sur d'autres choses. Ça va se jouer, je pense, plutôt sur des questions de métropole qui pourraient être leader en Europe, ou des effets de puissance. Peut-être que la Pologne est un petit peu mieux placée que la Roumanie de ce côté-là. Mais il faut voir aussi que cette Europe centrale, elle est extrêmement variée dans ses héritages, dans ses populations. Et il n'y a pas d'unité d'Europe centrale pour l'instant qui pourrait être portée par un leader.
Alors est-ce que la Bucarest et puis le prolongement, on va dire, sur toute l'ouverture sur la mer Noire via le Danube peut permettre un développement industriel ou un lieu de passage européen en Roumanie, qui favoriserait un développement économique ?
Alors effectivement, un des discours de la Roumanie, c'est de dire que c'est un carrefour pour l'Europe. Elle est aux marges orientales de l'Europe, mais elle fait l'interface avec la mer Noire. Or, on sait que la mer Noire est d'un intérêt stratégique pour l'Europe, parce que c'est par là que transitent les hydrocarbures russes, mais aussi d'Asie centrale. Donc c'est un des discours de la Roumanie, mais c'est pas le seul à le tenir. Par exemple, la Bulgarie tient exactement le même discours en tant que carrefour. Et il faut voir que la Roumanie, un peu plus que la Bulgarie, a d'ailleurs à la fois voulu séduire les instances européennes sur cette position-là, et elle a aussi joué la carte côté américanophile pour aussi pouvoir attirer, par exemple, des investissements américains sur son territoire. Donc là, effectivement, elles ont un rôle à jouer. Mais la mer Noire, faut quand même pas oublier que c'est aussi une zone d'instabilité. Donc avant même de penser à des grands enjeux économiques, c'est la stabilité de cette zone-là qu'il faut avant tout garantir pour que, on le sait, l'économie et les flux économiques puissent bien se développer.
Alors maintenant qu'on est à l'échelle de l'Union européenne, revenons encore une fois sur la question des Roms. L'Union européenne s'est trouvée en situation un petit peu difficile. On sait que le président roumain, depuis quelques années, demande à ce que la question des Roms soit traitée à l'échelle de l'Union. Dans le même temps, l'Union européenne reproche à la France de mentionner les Roms dans une circulaire. Alors, est-ce qu'une politique européenne visant directement les Roms pour leur intégration est possible ?
Alors on en revient à la question de la discrimination positive, de groupes ciblés qui peuvent être des groupes ethniques, par exemple les Roms. Et ça, c'est une vraie question pour l'Union européenne. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas une Union européenne. L'Union européenne, elle est constituée d'États membres. Et c'est chaque État membre qui, par collégialité, va aider à la construction de la politique européenne. Donc il y a effectivement des pays comme la Roumanie qui ont fait le choix de dire... qui veulent développer des politiques plutôt de discrimination positive, et je suis persuadée que d'autres pays vont refuser, vont pas vouloir qu'effectivement, au titre de l'Union européenne, il y ait ce type de politique jugée communautariste, qui puisse émerger. Donc, pour l'instant, l'Union européenne, je pense, elle est un petit peu bloquée par ça. Alors, pour l'instant, elle fait faire des études, justement, sur les conditions de vie des Roms en Europe. Elle rappelle que dans le cadre des fonds structurels, il y a plein de programmes, mais qui sont thématiques ou sectoriels, qui peuvent viser des populations roms. Mais est-ce qu'elle va pouvoir ou vouloir développer une politique plus ciblée à l'égard des Roms? On verra ça dans les années qui viennent, peut-être les mois qui viennent.
La France a émis donc des réserves sur l'entrée dans l'espace Schengen ou ce genre de choses. Est-ce que une telle attitude conduit à un isolement de la Roumanie ou est-ce que aussi réciproquement, isoler peut-être un pays fragiliserait l'Europe?
Moi, je dirais pas qu'on cherche à isoler. Ça fait partie, j'allais dire, du jeu diplomatique de brandir certains chiffons rouges. Et malheureusement, peut-être que l'Union a un peu trop brandi certains chiffons rouges vis-à-vis des pays d'Europe centrale et orientale. On va vous suspendre des fonds ou on va adhérer votre adhésion à Schengen. Donc là, moi, je pense qu'on est plus dans la gesticulation diplomatique. Voilà. Après, ça ne va pas affecter, je pense, le sens de la construction européenne. On a vu, il y a quelques années, on n'en parle pas du tout à l'occasion de la crise, enfin, cette tension entre la France et la Roumanie, mais il y a quelques années, la tension était entre l'Italie et la Roumanie. Il y avait eu la même chose. Donc voilà. Et ça n'a pas affecté le processus d'adhésion de la Roumanie dans l'Union. Mais voilà, il faut de la réelle politique, et surtout, la construction européenne doit se faire très lentement parce qu'elle se fait sur la base d'États membres.
Donc c'est des petites frictions qui sont finalement marqueurs de la progression de la construction européenne peut-être.
On peut voir ça si on a une vue positive des choses.
Eh bien, merci Emmanuel Boulineau pour cette note positive et puis pour votre présence au micro de Transistor en cette première de Le Monde ne suffit pas. Alors je rappelle que vous avez dirigé le volume 84 de la revue Géo Carrefour sur le thème « Quelle Europe 20 ans après la chute du mur ?» que vous avez participé à l'ouvrage collectif « L'Europe aménager les territoires » avec entre autres un article sur l'aménagement du territoire européen au défi de l'élargissement vers l'Est. Et puis plus directement en lien avec notre sujet, en 2004, dans la revue Espace, Population, Société, vous avez signé un article intitulé « Le déclin démographique bulgare, bilan d'une décennie de transition post-socialiste » dans lequel vous traitez la question de la démographie des Roms. Encore merci d'être venu.
Place peut-être à quelques recommandations bibliographiques pour approfondir la question. Quelques livres. Tout d'abord, l'Atlas de la Roumanie sous la direction de Violette Ray, édité par la Documentation française. Et Rome en Europe de Jean-Pierre Ligeois, rapport du Conseil de l'Europe 2007. En ce qui concerne les articles et les revues, ils seront
mis en ligne sur le site de Transistor. Et puis un mot sur nos autres sources, avec d'abord le reportage de France 24 dont nous avons entendu un extrait dans cette émission, à retrouver sur YouTube. Ajoutons de nombreux articles des journaux Le Monde, L'Express et Le Télégramme, des articles internet des sites Amnesty International, Roumanie.com. N'oublions pas les grands classiques, l'article Roumanie de l'Encyclopédia Universalis et puis utiliser avec beaucoup de précaution l'encyclopédie Wikipédia. Enfin, signalons un ouvrage général sur l'Europe, Géopolitique de l'Europe, chez Belin.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans 15 jours pour évoquer l'Irak. La semaine prochaine, vous retrouverez Laure et Vera aux manettes d'une émission de société. Bonne semaine sur Transistor, en espérant que jamais votre monde ne vous suffira.
En remerciant bien sûr la technique, Imad et Xavier aux manettes. Au revoir.